Ce matin, on commence une nouvelle série de messages qui va nous emmener jusque dans le temps des fêtes, jusqu'à Noël. Et puis, ça s'intitule « Nos chants de Noël ». Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter chaque dimanche sur un chant qu'on chante habituellement à l'église. Et puis, on va regarder les thèmes du chant et puis on va pouvoir apporter vraiment un message autour du thème de ce chant-là. D'accord? Mais juste avant, courbons-nous juste un instant là, et demandons au Seigneur de bénir le restant du temps qu'on a ensemble. Eh bien, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Et Seigneur, ce temps des fêtes est un bon rappel pour tout ce que tu as fait pour nous. Et on veut vraiment te louer, Seigneur, et on veut te demander de bénir abondamment ceux qui travaillent en haut, à l'étage, à enseigner et s'investir dans la vie de nos jeunes à l'Église. Et on pense aussi aux ados. Pour nous, ici, on te prie que ton Esprit Saint parle également à nos cœurs. Et puisses-tu édifier nos cœurs, notre foi, faire du bien aussi à ceux qui souffrent en ce moment. On sait qu'il y a des gens qui passent par des temps, soit de maladie ou des temps d'épreuve. On te prie que tu les accompagnes, particulièrement dans ce temps des fêtes, Seigneur. Alors, guide-nous ce matin par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Il y a plus de 160 ans, il y a un homme du nom de Henry Wadsworth Longfellow. Il vivait des moments tout à fait épouvantables. C'était l'un des moments, les pires moments de sa vie. C'était la guerre de sécession, ça déchirait le pays. Et son fils s'était engagé dans l'armée sans la permission de son père, avait été gravement blessé au combat. Non seulement ça, mais sa femme perd la vie dans un accident tragique. D'ailleurs, lors de son accident, la robe de sa femme prend feu. Alors son mari Longfellow essaie de la sauver des flammes, mais il se brûle gravement. Il va rester marqué physiquement et émotionnellement pour une bonne partie de sa vie. Tellement découragé, il perd sa femme et son fils est gravement blessé. Il est donc accablé par le deuil et la guerre. Plus de paix. Il perd toute sa paix intérieure. Le soir de Noël, on peut comprendre que son cœur était lourd, trop lourd. Il entend les cloches de Noël résonner dans les rues, mais tout ce qui reste en lui, c'est juste le doute, la distresse, la tristesse et la confusion. C'est donc au milieu de cette douleur atroce qu'il va composer un poème. À un moment du poème, il va dire ceci en toute transparence, « Il n'y a pas de paix sur terre, car la haine est forte. » C'était le cœur d'un homme qui était brisé, qui s'exprimait. Mais voilà que vers la fin, en terminant son poème, quelque chose change. Il écrit que les cloches de Noël qu'il entendait résonner dans les rues étaient plus fortes que ses larmes. Elle lui rappelait que malgré les apparences, Dieu n'a pas abandonné le monde. Que la vraie paix vient d'en haut, une paix que ni la guerre, ni les blessures, ni les ténèbres ne peuvent étouffer. Plus tard, ce poème va se transformer dans une chanson qui va devenir « I heard the bells on Christmas Day ». J'ai entendu les cloches le jour de Noël. Un chant qui a été chanté par Elvis Presley, Johnny Cash et Casting Crown, et aussi à l'église Le Sentier. Ce chant s'intitule en français « Paix dans le monde ». Et cette paix qui dépasse ce que la terre peut offrir ne vient pas d'une chanson ni d'un poème, d'une émotion et même d'un climat politique favorable. Cette paix vient d'une personne. Cette paix a été annoncée pour la toute première fois, non pas à un poète, mais à des bergers, dans une nuit bien ordinaire sur les collines de Bethléem. Eux aussi vivaient dans un monde troublé, un monde rempli d'injustices, de tensions. Mais voilà que le ciel, tout d'un coup, va s'ouvrir. Des anges sont apparus et ont proclamé un message qui résonne encore aujourd'hui. Un message qui a transformé la tristesse de Longfellow en espérance et qui peut aussi transformer la nôtre. Alors, on va aller voir cette histoire, une histoire tout à fait extraordinaire, qui se trouve dans Luc, chapitre 2. Et nous allons lire les versets 8 à 20. Alors, Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé d'un linge et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout ça et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent et célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je pense que parmi tous les passages qu'on peut lire à Noël, celui-ci, c'est le plus célèbre. C'est certainement le plus connu. Et parmi tous les versets dans le passage, le verset le plus célèbre est certainement le verset 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et dans ce verset, le mot le plus célèbre et le plus connu est certainement, dans le temps de Noël, est certainement le mot « paix ». La paix sur la terre. On voit ça dans les cartes de Noël, très souvent. Tout le monde connaît ce verset. Des gens le citent. Noël, c'est la paix sur terre. Tout le monde semble le savoir, mais quelle est cette paix? C'est une scène extraordinaire où Dieu lui-même annonce que la vraie paix est enfin arrivée en la venue de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est né, il est venu pour apporter cette paix. C'est ce que disent les anges. Mais quelle est cette paix? Que signifie ce texte lorsque l'auteur Luc, inspiré et guidé par le Saint-Esprit, a décidé de nous rapporter les paroles des anges? Qu'est-ce qu'il comprenait? Qu'est-ce que le Nouveau Testament comprend? Qu'est-ce que les anges comprenaient? Quand on parle de la paix sur terre que Jésus est venu apporter. Alors commençons en disant que ce n'est pas une paix politique. La paix de Jésus n'est ni politique ni internationale. Le Nouveau Testament va dire clairement que la paix sur terre que Jésus est venu apporter n'était pas une paix politique. Maintenant, oui, le christianisme a certainement rendu le monde beaucoup plus humain, plus sûr et plus pacifique, absolument. Le christianisme a eu tout un impact dans l'histoire, car c'était la volonté de Dieu, d'ailleurs, que les enfants de Dieu prennent soin des uns des autres. On peut lire, d'ailleurs, dans Zacharie 7:9, « Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Ne privez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. » Maintenant, ces quatre groupes de personnes, les veuves, les orphelins, les étrangers et les pauvres, sont ce que certains appellent le quatuor des vulnérables. Dans l'Antiquité, ces quatre groupes étaient les plus vulnérables. Ils n'avaient pas de protection sociale. Ils vivaient au jour le jour et couraient souvent le risque de mourir de faim à n'importe quel moment. Et ce qu'on voit dans les Écritures saintes, c'est que Dieu se présente comme étant le défenseur de ces groupes de personnes vulnérables. Maintenant, aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Mais alors, à l'époque, c'était révolutionnaire. Le spécialiste Vinod Ramachandra appelle cela la justice scandaleuse. Il explique que dans toutes les cultures anciennes dans le monde, le pouvoir des dieux s'acheminait et s'identifiait aux élites de la société, c'est-à-dire les rois, les prêtres, les chefs militaires, et non aux marginaux, aux exclus et les exclus. À cette époque, s'opposer aux leaders de la société, c'était s'opposer aux dieux. Mais ici, dans ces passages, Dieu ne s'identifie pas avec les chefs, les leaders, mais avec les orphelins, les veuves et les étrangers. Il prend position en leur faveur. Et c'est ce que Dieu fait à travers l'histoire. Dieu prend leur défense et préconise leur émancipation. Voyez-vous, le Dieu de la Bible se distinguait de tous les dieux, les faux dieux, en fait, des autres religions, en s'associant aux impuissants, aux faibles et aux pauvres. C'est ainsi que les chrétiens ont donc voulu suivre l'exemple de leur sauveur. Selon l'historien et sociologue Rodney Stark, les premiers chrétiens mettaient un accent révolutionnaire sur la miséricorde au point de capter l'attention du monde ancien. Au dire des spécialistes, la miséricorde était considérée comme une faiblesse de caractère au sein de la société, et la compassion comme une émotion pathologique. Le christianisme enseignait qu'un Dieu miséricordieux devrait inciter l'humanité à être miséricordieux. Un historien du nom de Alan Crader a fait l'analyse de l'explosion de l'Évangile. Il voulait comprendre c'est quoi ce phénomène, qu'est-ce qui a expliqué l'explosion et l'expansion de l'Évangile et du christianisme aussi rapidement. Alors, il a fait toute une analyse de cette explosion d'Évangile dans l'Antiquité. Et sa recherche l'a amené à la conclusion selon laquelle les gens furent attirés à l'Évangile par le souci et l'amour des chrétiens, leur compassion pour les gens pauvres et faibles. Les chrétiens étaient généreux avec les démunis. Ils faisaient du bien même à leurs ennemis. Les chrétiens prenaient particulièrement soin des veuves. D'ailleurs, les auteurs et théologiens Andreas Kostenberger et Thomas Schreiner estiment que 30 % des femmes dans la trentaine étaient veuves. Et 40 % ça montait à 40 % des femmes de 40 ans en montant. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? À la lumière de cette histoire, on peut mieux comprendre et apprécier le livre des Actes au chapitre 6, qui dit au chapitre 6, qu'est-ce qu'on voit? Les disciples en train de prendre soin des veuves. Et on voit la même chose dans 1 Timothée, alors que les chrétiens sont invités, non, les chrétiens dans Timothée, on les voit, mettre sur pied un système d'entraide pour aider les veuves. D'ailleurs, Tim Keller, qui est décédé aujourd'hui, raconte dans l'un de ses livres qu'il a fait sa thèse de doctorat sur la formation de diacres. Et sa recherche lui a permis de découvrir qu'à l'ère de l'Église primitive, et ça a duré pendant des siècles, la responsabilité des diacres, c'était de prendre soin des démunis au sein de la communauté. Les démunis savaient qu'ils pouvaient compter sur les chrétiens pour bénéficier de leur aide. Et lorsque des personnes avaient faim, ils savaient qu'ils pouvaient cogner à la porte des chrétiens et ils seraient bien reçus. Lorsque les chrétiens n'avaient pas assez de nourriture, pas assez d'argent ou de nourriture pour nourrir ceux qui venaient à leur porte, ils jeûnaient jusqu'à ce que tout le monde puisse manger ensemble. L'auteur Rodney Stark, qui est l'auteur du livre qui est maintenant disponible en français, un livre fascinant, intitulé « L'essor du christianisme », un sociologue revisite l'histoire de l'Église des premiers chrétiens et des premiers siècles, raconte qu'en l'an 250 après Jésus-Christ, il est estimé que 10 000 chrétiens ont jeûné l'équivalent de 100 jours dans l'année afin de donner 1 million de repas aux pauvres. Phénoménal! Donc oui, le christianisme a littéralement changé le monde. Depuis ses débuts, l'Église a toujours cherché à faire du bien à la société et à prendre soin des vulnérables. Le christianisme a rendu le monde beaucoup plus humain, plus sûr, plus pacifique. Absolument. Reste que le Nouveau Testament dit clairement que la paix sur terre que Jésus est venu apporter n'est pas une paix politique ou internationale. Lorsqu'on regarde l'histoire depuis le début, depuis la venue de Jésus, on doit reconnaître une réalité qui est troublante, c'est que les guerres, les carnages, les violences, ça n'a pas cessé de ravager notre monde. Alors si c'est ce que Luc voulait dire, et si c'est ce que les anges voulaient dire, et si c'est ce que le Nouveau Testament veut dire, que Jésus-Christ est venu pour mettre fin aux guerres, eh bien alors on a le droit de dire que finalement, le message de l'Évangile n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas ce que le Nouveau Testament dit. Jésus-Christ n'est pas venu, n'est pas né pour éliminer les guerres. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même va dire à ses disciples qui lui posent la question, comment on va connaître les signes de la fin des temps? Et qu'est-ce que Jésus répond? Bien, dans Luc 21:9, Jésus va dire, lorsque vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne soyez pas surpris. Là. Ces choses doivent arriver. Une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre le royaume. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, c'est que les guerres ne cesseront pas. Et non seulement ça, la situation va empirer à mesure qu'on approche vers la fin. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas rechercher la paix, parce qu'après tout, Jésus-Christ a dit, dans son sermon, Matthieu 5, à À 7, il va dire « Heureux ceux qui procurent la paix ». Mais le but de sa venue n'est pas d'apporter la paix politique, ni même nécessairement relationnelle. Luc 12, 51 va dire, Jésus dit, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? » Non, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Maintenant, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est venu apporter la division entre les pays. Quand on voit des gens partir en guerre, des nations contre des nations, au nom de Jésus, ils ne le font pas au nom de Jésus. Non, non, lorsque Jésus parle de division, il ne parle pas de ce genre de division entre pays. Jésus n'est pas venu apporter des guerres. Ce sont des guerres politiques, ce qu'on voit. Non, ce que Jésus est en train de dire, c'est lorsqu'il vient dans notre vie, il y aura des malaises. Quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, il peut arriver, pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais il peut arriver que dans certaines de nos relations qu'on avait avant de connaître le Seigneur Jésus commencent à changer un peu. Des personnes avec qui on était proches ne comprennent pas nécessairement notre cheminement de foi. On s'entend peut-être plus aussi bien qu'avant. Il peut peut-être même y avoir de la colère dans certains cas. On en a vu. La paix sur terre n'est pas relationnelle. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un impact positif dans nos relations? Absolument. On le voit régulièrement chez des gens. Après tout, comme enfant de Dieu, le Saint-Esprit opère des changements dans notre cœur. Si bien que si on marche selon l'Esprit, on va ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Hier soir, c'était le temps de se coucher. On était couchés, Lise et moi, puis on commençait à jaser. On jasait toutes sortes d'affaires. Puis je disais, « Sais-tu, je faisais dur avant, hein? » Ouais, vraiment, je faisais dur. Hein? T'es-tu contente? J'ai tellement changé. Hein? Elle dit, ouais! Ça m'a pas l'air, convaincu que j'avais tant changé que ça. Mais en tout cas, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Elle n'avait pas entendu d'emmène dans ce coin-là. Hein? Non, c'est ça. Mais si notre cœur est doux, tendre et rempli d'amour, oui, on va éprouver de la paix. Mais vivre dans notre monde, c'est faire face à plein de défis émotionnels, des relations brisées. Puis il faut se rappeler que la paix intérieure qu'on va avoir, c'est toujours une paix partielle. Parce qu'on reste pécheur. C'est jamais absolu. C'est jamais parfait. Alors, si la paix que le Seigneur promet n'est pas politique ou relationnelle, c'est quoi cette paix-là? Bien, c'est une paix qui est vraiment concrète. C'est spécifique. C'est pas un rêve lointain, là, inatteignable. C'est un don de Dieu qu'on obtient maintenant. Luc, dans son évangile, nous donne une piste pour bien comprendre de quelle paix il s'agit. Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, se tourne vers son fils, qui n'est pas encore né à ce moment-là. C'était vraiment un miracle, la naissance, ou la grossesse et la naissance de Jean-Baptiste, parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et là, il va se tourner vers son fils, qui n'est pas encore né à ce moment-là. Il reçoit une prophétie de Dieu annonçant la naissance de son fils. Et il dit que cet enfant-là va préparer le chemin pour la venue du Sauveur Jésus. Il ouvre la bouche, Zacharie ouvre la bouche et commence à louer Dieu. Il se tourne vers son fils, il dit, « Toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. » Maintenant, Zacharie parle de la paix et du pardon des péchés. Alors, si on retourne au message des anges, qui va dire dans Luc 2, 14 ceci, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Laissez-moi vous le lire ou le citer dans une autre version qui est plus facile à comprendre. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes sur qui repose sa faveur. » Maintenant, le monde romain goûtait à la Pax Romana, qui veut dire la paix romaine. C'était caractérisé par une tranquillité extérieure, mais c'était forcé. Mais les anges annoncent une paix encore plus profonde, plus durable, celle du cœur et de l'âme, rendue possible par le Sauveur, le Seigneur Jésus. Dans Luc 2, verset 9, qu'on a lu, Ça dit ceci, « Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et le verset 13 dit ceci, « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. » Une foule d'anges. On parle de milliers d'anges. Le même mot « foule », il s'est employé pour Jésus lorsqu'il y a des milliers. Vous vous rappelez là, les 5000 personnes qu'il a nourries. Des milliers d'anges se joignent. C'est le même mot là, que la foule qui suivait Jésus. Là. Alors, des milliers d'anges adressent des louanges à Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors, la paix dont il est question ici, qui nous est promise, c'est une paix entre Dieu et nous. Charles Wesley a composé un chant dont le titre en français est « Écoutez le chant des anges ». Et la toute première ligne dans la version originale dit ceci, « Paix sur terre et douce miséricorde. Dieu et les pécheurs réconciliés. » Alors, qu'est-ce que c'est, la paix? Cette paix sur terre, c'est justement ce que Wesley souligne, une douce miséricorde. C'est intéressant que dans la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, alors qu'il prophétise par le Saint-Esprit, va dire au chapitre 1, verset 72, « Ainsi Dieu manifeste sa bonté. » Alors, il parle de la venue du Sauveur Jésus. Le mot « bonté », ici, « Elios » dans l'original, signifie « miséricorde ». Et ce mot miséricorde, bonté, va revenir 5 fois dans ce seul chapitre. La venue de Jésus, c'est une évidence de la bonté de Dieu et sa miséricorde envers nous. Et cette paix est absolument parfaite. C'est une paix extraordinaire. La paix avec Dieu est totale et sans limite. Romains 5:1 va dire, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Colossiens chapitre 1, verset 21 dit ceci. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Pourquoi Jésus est venu? Eh bien, verset 22 qu'on vient de lire le dit. Il vous a maintenant réconcilié par Jésus pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Imaginez là. Réalisez ça, là. Une fois réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, il n'y a donc maintenant aucune accusation qui se tient contre nous. Nous sommes maintenant exempts d'accusation. Nous sommes déclarés saints. Maintenant, tu vas dire, « Ah, mon loup, tu connais pas mon mari, il n'est pas trop saint. » Ben oui, si c'est un enfant de Dieu, il est déclaré devant Dieu saint. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le « déjà, pas encore ». En Jésus, nous sommes déclarés saints. C'est notre identité, c'est notre nouvelle identité devant Dieu. Nous sommes déjà saints devant Dieu, mais nous poursuivons la sainteté. C'est le « déjà, pas encore ». Notre position devant Dieu est notre sanctification progressive. En d'autres mots, nous devenons de plus en plus ce que nous sommes. D'accord? Moi, je me rappelle le professeur Dr. Klein, professeur spécialiste dans toute la doctrine du salut, avait dit ceci, cette phrase que j'ai toujours aimée, puis je la répète de temps en temps, parce que j'aime tellement ça. Il dit, « Devenez ce que vous êtes. » Amen? Oui, il y a un mystère là-dedans, c'est sûr. Il y a un mystère, mais c'est ça. Cette paix est parfaite. Aucune religion dans le monde n'offre cette paix. Pour beaucoup, la religion, ça se résume à faire des efforts de plus pour devenir une meilleure personne. On essaie de bien agir, on espère qu'au bout du compte, Dieu va nous être favorable. va nous accorder des faveurs. Mais comme le dit Romain, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos efforts, c'est par la foi. Il y a deux sortes de personnes, deux types de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas reçu cette paix pour diverses raisons. Ça peut être parce qu'ils n'ont aucune idée que c'est disponible ou simplement ils ne veulent rien savoir de Jésus. Mais il y a d'autres personnes qui ont reçu cette paix, des enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas comme ils pourraient. Maintenant, comment recevoir cette paix? Et comment vivre en fonction de cette paix? Parce que certains chrétiens, on peut oublier, on ne vit pas cette paix comme on le pourrait. Alors, on reconnaît, on reçoit cette paix en reconnaissant que nous avons péché contre Dieu. Ça, c'est sûr, ça commence là. Tant qu'on n'admet pas notre état de pécheur devant Dieu et notre besoin de Jésus, de son salut, on ne saisira jamais le message de l'Évangile et tout ce que Jésus a fait. Jésus est venu vivre la vie qu'on n'a pas su suivre. Il a accepté de mourir la mort que notre péché méritait et il est venu pour porter à notre place le jugement qui nous revenait. Et Ésaïe 53, verset 4 le dit bien, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Son châtiment, c'est notre paix. Jésus a perdu la paix pour nous la donner. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Pour nous qui avons trouvé Jésus notre salut, nous avons été réconciliés avec le Dieu vivant. Nous vivons maintenant, désormais, dans une paix profonde. Une paix que rien ni personne ne peut nous arracher. Dieu a déposé en nos cœurs sa propre paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde notre âme. Alors, mes amis, ne nous habituons jamais, prenons jamais ça pour acquis, ne nous habituons jamais à ce beau trésor. Prenons le temps, particulièrement dans cette période des fêtes, et encore, puis encore, de nous émerveiller, de nous réjouir de cette paix qui est un don de la grâce de Dieu. C'est ce que font les anges en passant. Les anges sont bénis, sont émerveillés devant la bonté et la miséricorde de Dieu. Colossiens 1:12 dit ceci, il dit « Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message » dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Réalisons-nous que les anges ne cessent jamais d'admirer puis de contempler le message de l'Évangile. Puis soyons bien honnêtes, les anges sont pas mal plus intelligents, plus sages, plus riches, plus profonds que nous autres. Là. Et pourtant, les anges, qui sont des êtres extraordinaires, ne se lassent jamais, jamais, jamais de contempler, de se réjouir et de méditer l'Évangile. Un ange ne dira jamais, « Bien oui, je connais l'Évangile, alors on passe à d'autres choses, alors quelque chose de plus profond. » Jamais. Il n'y a rien de plus profond que l'Évangile. L'Évangile est la merveille de leur vie. Les anges ne peuvent jamais cesser d'y penser. Cette paix avec Dieu, paix sur terre et douce miséricorde. Dieu et les pécheurs réconciliés. Les anges ne peuvent pas s'en remettre et ne se tannent pas d'admirer l'Évangile. Et ce qui est merveilleux avec la paix de Dieu sur terre, c'est qu'un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va y avoir une paix politique. Il va y avoir une paix économique. Un jour, il y aura la restauration de toutes choses. Parce que Jésus déteste la maladie, déteste la souffrance, la pauvreté et les guerres. Et un jour, il va revenir. Et il y aura la paix sur terre à tous les nouveaux. Alors, mes chers amis, réjouissons-nous de celui qui est venu apporter la paix véritable sur terre, une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Alors, ce matin, on veut vraiment prendre la Sainte-Cène, ce repas, prendre le pain et la coupe, qui est vraiment une célébration et on veut se rappeler ce sacrifice parfait qui a été fait par Jésus-Christ. Alors, si vous avez justement reconnu votre état pécheur, vous avez crié à Dieu, vous avez dit, « Seigneur, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de la vie éternelle que toi seul offres », eh bien, vous êtes invité ce matin certainement à prendre part à ce repas du Seigneur.